Vive l'année 2016 avec les papous. Au menu de ce premier numéro, une histoire de bise par Jacques Abertrand, Serge Joncourt, Violaine Schwartz. Et pour très vite oublier les bonnes résolutions, l'inventaire des choses que vous avez bâclées, Dominique Muller.
Ce n'est qu'à l'université que j'ai commencé à bidouiller mes dissertations, mes versions. Alors j'ai compris que pour bâcler, il fallait une force encore plus supérieure que le sens du devoir. Et cette force s'appelait les garçons.
Ah ! Et puis des histoires de SMS. Une nouvelle très gonflée entre musique et alcool. Et le DLA avec les experts Éval Massy, Patrice Minet, Luc Cafournier et Patrice Delbourg.
Pas de saut du tout. Ne ressemble pas du tout au texte du 17e, 18e. Et puis il y a quelque chose, cette manière de traîner le saut en longueur, si j'ose dire, est assez charmante.
Nous nous quitterons sur le joli dimanche de Jacques Abertrand, façon un mot pour un autre. Ensemble et très heureux de l'être, jusqu'à 13h59. Un numéro des Papous à télécharger pendant un an sur franceculture.fr. À réécouter 1000 jours sur notre page où vous pouvez poster vos remarques, essais sur les jeux papous, rubrique commentaires. Et puis rejoignez-nous sur Facebook, entre amis. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent une bonne année. On se lance avec le coup de grogne de Jacques Abertrand. Or alors plutôt gentil Jacques, mais il faut pas trop le contrarier, lui courir sur le haricot, comme on dit en français. Vous connaissez l'équivalent de cette expression en allemand? Eh bien c'est lui marcher sur le biscuit. Eh ouais. Bref, quand une chose le contrarie, il écrit contre elle. Et après ça va beaucoup mieux. Vous êtes contre quoi aujourd'hui, Jacques?
Contre la bise.
La bise, quand la bise...
La bise, on se fait la bise.
Ah oui, parce qu'on vient de
les bisous.
Échange de bactéries.
Ah oui. Vous n'aimez pas en donner ou en recevoir, ou les deux?
Les deux. Je suis les contre deux. La bise en général.
Ah d'accord.
La bise, ouais. Je préférerais pas. Il n'est pas question ici du vent du Nord qui, en prenant ses quartiers dans la vallée du Rhône, se fait appeler Mistral et rend en Provence le port du chapeau et le cyclotourisme tellement ardu. Il s'agit du béco, du bisou, du poutou... Du bec au Québec. On se fait la bise? Ah, content de vous voir, je vous fais la bise. On s'était fait la bise la dernière fois, il me semble. Faites-lui la bise de ma part. Bise, bise et bisquerage. Jadis, l'homme n'embrassait que les femmes, en public du moins. Ça vous laissait un peu de répit. Aujourd'hui, tout le monde embrasse tout le monde. Un grand malabar de 200 livres vous serre dans ses bras à vous briser les reins pour vous claquer la bise. En plus, il n'est pas rasé.
Absolument.
Si vous avez déjà rencontré une personne une fois, même si cela se passait dans un lieu officiel et peut-être même lors d'une cérémonie, à l'Institut ou sur le perron de l'Élysée, ce sont des exemples, la deuxième fois, elle va vous faire la bise. Certains vous font même la bise la première fois qu'ils vous voient, sous le prétexte que vous connaissez Joncourt, Morbihan ou Le Tellier. Connaître d'ailleurs, c'est beaucoup dire, on croit connaître. Joncourt surtout. Bien qu'il me fasse la bise. On me dira... Tout de même, quand il s'agit d'une super nana, ça doit être plutôt agréable. Pas du tout. Rien n'est plus frustrant. La bise, c'est l'anti-baiser. C'est « je préfère qu'on reste copain ». C'est « je m'approche pour mieux te tenir à distance ». Et remarque que je ne vais pas directement vers toi, j'en fais le tour. La bise est par ailleurs un rituel terriblement compliqué qui obéit à des règles coutumières nationales, régionales, voire départementales. Dans le Vexin, on en fait quatre.
Oui. Au-delà, c'est vexant.
À Paris, on n'en fait que deux, encore que je n'ai pas fait la bise dans tous les arrondissements et qu'il puisse exister des variantes locales. Donc, parisien en visite dans le Vexin, vous n'en faites que deux et votre interlocuteur reste le museau en l'air. Il en veut deux autres. Si vous êtes invité à déjeuner dans une famille de 12 personnes, ça vous fait 48 bises.
C'est énorme.
À Joyeuse, dans l'Ardèche, c'est trois. À Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, c'est trois aussi. Comme à Alba-la-Romaine, Pont-Saint-Esprit et Tain-l'Hermitage. Débarquant de la capitale, vous en faites deux. La personne en face amorce un troisième mouvement. alors que vous avez interrompu la rotation de vos vertèbres cervicales, vous vous heurtez le nez.
Aïe.
À ma connaissance, dans aucun village de l'Hexagone, on n'en fait qu'une. Mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'on en fait 5 ou 6 dans certains endroits reculés.
En Argentine, on fait une.
Ah, vous voyez.
Mais c'est loin. Je ne crois pas qu'il soit précisé dans les évangiles combien de bises Judas a fait à Jésus pour le désigner au légionnaire romain. Et puis il y a bises et bises. Les uns vous piquent un béco pointu sur la pommette, les autres y collent leurs lèvres humides, d'autres se contentent de tendre leurs joues. Si de votre côté vous tendez aussi la joue, ça donne une fausse bise, une friction de joue, et malheur au barbu. La bise réclame un apprentissage et davantage encore d'intuition. Il est en effet délicat de choisir de porter la première bise à droite ou à gauche. Si vous partez du même côté que l'autre, vous allez à nouveau vous heurter le nez. Peut-être même vous effleurer les lèvres, ce qui pourrait prêter à confusion. Alors qu'ils ont fini par adopter ce qu'ils appellent le French kiss, les Anglais se font très peu la bise. Ou alors en vacances à Sarlat, par courtoisie ou sous l'effet du vin de Bergerac. Ils ne serrent pas volontiers la main non plus. La première fois que j'ai débarqué à Londres, j'ai été présenté à un professeur de biologie à qui j'ai tendu la main. Il ne l'a pas prise. Je suis resté la main en l'air, ce qui ne donne pas forcément l'air intelligent. J'ai ajouté ça dans mon carnet noir avec Azincourt, Fachoda et Marcel Kébir. Et je ne parle pas de l'aspect résolument anti-hygiénique de la chose. Une bise, combien de bactéries ?
Oula !
Des millions de microbes n'attendent que l'occasion de tomber sur deux personnes qui se connaissent et qui vont se faire la bise pour changer de porteur. Mutatis mutandis, des foules innombrables. J'aime bien placer mutatis.
Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est complexe.
C'est un peu comme une bise dans un texte. Voilà.
Mutatis mutandis, des foules innombrables de parasites et de virus sont aux aguets, rêvant de formidables épidémies. On s'étonne qu'à cette époque, qui ajoute sans modération au politiquement correct, le médicalement correct, la bise ne soit pas interdite. Enfin, le corps humain contient, paraît-il, des milliards de bactéries sans lesquelles nous ne pourrions vivre. 3 kilos rien que dans les intestins. Certains scientifiques prétendent que le ventre est notre deuxième cerveau. D'une certaine façon, ce ne sont pas les bactéries qui habitent chez nous, c'est nous qui habitons chez elles. Bon, d'accord, mais chacun chez soi.
Ah bon. Le pire, c'est quand les gens disent « Allez, on se fait la bise
».
Moi, déjà, ils pensent que c'est pas la peine de la faire.
Souvent, ils ne disent même pas.
Non, mais ça, c'est quand
oui,
on
c'est
est...
presque condescendant. Allez,
non, mais parfois, c'est quand on est fâché. On est fâché avec quelqu'un. Ou que... Allez, on se fait la bise.
Dites donc, Serge Joncourt, vous avez un point de vue sur la bise. Moi, je sais un petit peu, parce que... Quand vous êtes entré dans le studio tout à l'heure, vous m'avez embrassé sur les deux joues. Ça piquait un peu parce que vous êtes quand même très barbu. Et donc, vous aimez bien les bises ?
Oui.
Ah, oui, oui, oui. Oui. J'ai deviné.
Non, bah oui, parce que moi, je suis, comment dire, je un tactile. Oui. J'ai besoin de sentir l'autre.
Ouais.
Alors d'abord, bah oui. Alors d'abord, je l'empoigne bien, bien fermement.
Voyez, ah ben bah, par les épaules, ça fait même un peu mal.
Oui, voilà, okay, c'est oui, exactement. Vous, avez, vous êtes observatrice en posant une main sur chaque épaule.
Ouais,
Je le ceinture au sens figuré, vous voyez. Et là, à partir de là, bah, j'en fais ce que je veux. 2, 3, 4, 6 bises, ça dépend.
Ça vous fait pas peur.
Oui. Bon, enfin, pour parler plus sérieusement, je vais vous dire. Non seulement je fais la bise, mais en plus. Je ne vois pas comment on pourrait faire sans. Ouais. Je veux dire sans la bise. Oui, la bise, c'est l'indice ultime de ce que vous représentez pour l'autre.
Bah, c'est pas la toujours.
Si, 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 mais je vais vous prendre un exemple. Ouais, ouais, par exemple, quand je vais à la banque, je fais un petit coucou lointain au gars qui est derrière le guichet. Il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, quand j'arrive devant le bureau de ma conseillère de clientèle, je frappe un coup, je se lève, j'entre. Et là, je m'avance pour lui faire la bise.
Ah bon ?
Eh bien, je peux vous dire une chose. Si ce jour-là, elle me fait la bise sans broncher et que même elle m'en concède 4, c'est qu'au bas mot, je suis à plus de 3000. Oui. Et si par contre, quand je vais pour lui faire la bise, non seulement elle reste assise, mais elle ne me tend même pas la main, ça veut dire que je suis dans l'auge. La bise, c'est de la psychologie concrète. Vous voyez,
C'est un instrument de mesure.
Absolument. Je n'ai même pas besoin de parler.
Voilà. Bien dit. Ouais.
Tout, enfin, je suis compris. La même façon, quand je vais au resto, ça m'arrive d'aller au resto, je ne mange pas toujours chez moi. Bon, mais ça m'arrive, ça m'arrive. Bon, eh bien, même quand je ne connais pas, je n'ai jamais foutu les pieds au resto, si vous voulez, et que je ne connais pas le patron, c'est la première fois que je vais, eh bien, paf, je lui cale 3 bises. Alors évidemment, ça surprend toujours un peu.
Hein, ouais, ça peut être mal pris. Hein.
Non, mais en tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le cuistot, quand il a vu que vous venez de faire trois bises au patron, hein, jamais il vous refilera un cabillaud d'il y a trois jours qu'à mariner dans l'ennemi. Pas plus qu'il vous dressera une salade pas fraîche ou des choux de Bruxelles trop cuits. Non, bah non, il se dit, tiens, bah, ils doivent te connaître. Puisque, ah, bah oui, ça ouais. C'est la psychologie concrète. Hein ouais. Non.
Mais si, vous avez raison. Je vais retenir le tuyau. Ouais.
C'est une technique.
Il faut oser, évidemment, mais...
Il faut oser, parce que...
Mais je vous emmènerai. Comme
au resto, on ira tous les deux. Place. Oui, on se fera la bise après. pour peu qu'on prenne un peu le parti pris de vivre au milieu de ses contemporains, ouais. Voyez, hein, et d'en fréquenter quelques-uns...
On est un peu obligés, en
la
plus.
La bise, oui. c'est ce qui nous sauve. Mm. Combien de fois... Je me suis approché de quelqu'un que je connais, donc, en lui fondant dessus pour lui faire la bise, et qui, là, par chance, au dernier moment, me repousse en me disant « Oh, mon Dieu, pas aujourd'hui, j'ai la grippe. » Ben oui, mais bon, quand quelqu'un me dit ça, c'est bien simple. Alors, premièrement, je ressors tout de suite de la pièce, en lui disant « À bientôt. » Et je lui fais un texto 8 jours après pour savoir si ça va mieux. Eh ben, grâce à la combine, j'en ai évité les grippes. Et pas un seul vaccin. Après ça, bien sûr, il y a les bizarres.
Les bizarres.
Les bizarres. Je ne l'avais pas prévu, mais enfin, bien vu quand même. Hein. Les bizarres, ceux qui se disent oui, bien sûr, oui. Alors on se fait la bise. Oui, mais pas de ce côté.
Oui.
Parce que j'ai mal à une dent ou je me suis brûlé la joue. Alors, bon,
ouais, ça arrive. Ouais, je connais.
Bien sûr, ça arrive. Ça m'est arrivé récemment. Bon, alors c'est pas grave. On peut se faire la bise d'un seul côté.
Exactement.
On peut se faire la bise.
Il faut juste viser tous les deux le même côté.
Alors,
c'est
le problème, c'est que on va prendre l'exemple.
Oui.
Si cette personne a mal à la joue gauche et que moi j'ai un abcès du côté droit,
c'est fichu.
Eh bien, pour lui faire une bise avec ma joue gauche sur son côté droit à elle, je suis obligé de passer derrière. Enfin, on y arrive quand même. C'est humain, ça, vous voyez, ça anime, quoi, la bise. Non, c'est fondamental. Non, vraiment, la bise, c'est merveilleux. La bise, c'est le baiser de tous les jours. La bise, c'est le baiser commun. Quoi. Je, pour rien dans le monde, je m'en priverai. D'ailleurs, je propose qu'on s'embrasse tous.
Ah, oui. Bon, c'est si bon. Qu'est-ce que vous pensez de la bise, vous, Lucas?
Oh, je pense que c'est un vent froid.
Oui, c'est vrai aussi.
Bon,
je sais que Violaine Schwartz a un point de vue sur la bise, parce qu'elle est la bise.
Voilà.
Qu'est-ce qu'elle en pense, la bise, de se faire comme ça claquer sur n'importe quelle joue?
Elle n'est pas très contente non plus, quoi, c'est ça.
Ah ouais? Elle le dit?
Oui, elle le dit, elle aurait bien voulu être autre chose.
Elle le chante?
Elle le chante.
Sur quel air?
Sur l'air de « J'aurais voulu être un artiste ». Tous les matins, pour dire bonjour, je passe ma vie à toucher des joues, 2 à Paris, 3 à Fribourg. Un peu plus qu'une poignée de main, un petit geste entre copains, les joues, voilà mon seul destin. C'est bien gentil, mais ça me rase, fond de teint collant et poils qui piquent, je suis seulement une bise de base. Une convention, une politesse, une abruge, 4 à Bourg-en-Bresse, tout le monde s'en mêle, c'est pas l'extase. Au moins es-tu heureuse? Je suis pas heureuse, mais j'en ai l'air. On m'a reléguée aux pommettes et aux bajoux, quelle misère. Et chaque jour ça recommence, une à Bruxelles, 3 en Provence. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un baiser sur un quai de gare ou à Orly, lèvres offertes, corps encastré, un vertigo, un incendie. J'aurais voulu être une folie pour pouvoir faire mon numéro, baiser volé près d'un mari qui n'y voit rien, c'est rigolo, qui n'y voit rien, c'est rigolo. J'aurais voulu être un French kiss, le ventre chaud, le cœur défait, glisser ma langue dans l'interstice, dent contre dent sous un palais, dent contre dent sous un palais. J'aurais voulu être un palot, aussi baveux qu'un escargot, me faufiler à l'intérieur, jusqu'à la glotte en profondeur, jusqu'à la glotte en profondeur. J'aurais voulu être une galoche, premier émotion, l'émoi de deux ados, le temps d'un slow dans un baloche, sur l'air de Ti amo, Ti amo, Ti amo.
Bravo. Ouais, elle est mignonne, la bise. Est-ce que ça ne vous la rend pas sympathique, Jacques?
Moi, je suis contre la bise, mais je suis absolument à fond pour le baiser.
Ah bah voilà.
Ah, donc on ne se serre plus la main, alors.
Il y a des papous dans mon quartier.
Et sur France Culture.
Et oui, une histoire tout en SMS, par un spécialiste du SMS, Hervé Le Tellier. Il adore pianoter sur un clavier téléphonique, Hervé. Dans toutes les circonstances, il écrit « Que lui répond l'autre ?» À nous de le deviner à travers ses mots à lui. Hervé Le Tellier, vous jouez.
J'envoie des SMS à un de mes amis.
Oui.
Lundi, 15h. On vient de m'apprendre la mort affreuse de tes poissons rouges. C'est terrible. Surtout pour Fifi, ton préféré. Je t'embrasse. Lundi, 16h. Je viens d'apprendre pour l'indigestion de ton chat. Pauvre Choupette. Caresse-la pour moi. Je t'embrasse. Lundi, 19h. On m'a raconté ce qu'a fait Choupette sur le canapé. C'est moche. Il y a un excellent détachant et désodorisant. Appelle-moi, je te donnerai la marque. Je t'embrasse. Lundi, 23h. Je sais tout pour le dîner avec ton patron. Gâché par un canapé souillé. J'espère qu'il n'est pas trop furieux. J'ai l'adresse d'un bon teinturier s'il n'est pas trop tard. Je t'embrasse. Mardi, 13h. On vient de me dire que finalement ton contrat n'est pas renouvelé. Essaye de me joindre, j'ai peut-être une idée. Je t'embrasse. Mardi, 14h. Oh, j'ai oublié, laisse tomber les carpes. Essaye plutôt les piranhas. C'est peu comestible et les chats n'en approchent pas. Je t'embrasse.
Le 3 janvier, on n'a pas encore épuisé les bonnes résolutions pour l'année nouvelle. Par contre, on peut tout à fait tirer un trait sur toutes celles qui n'ont pas été tenues l'année précédente et notamment regretter tout ce qu'on a bâclé par négligence, lassitude ou paresse et en dresser l'inventaire collectif des choses bâclées, avec regret ou pas, des projets de bâclage aussi, en compagnie de Violaine Schwartz, Dominique Muller, Lucas Fournier, Serge Joncourt et Jacques Bertrand. Dominique Muller, à vous de dire la première.
J'ai l'intention, dans les années qui viennent, de bâcler les repas que je fournis à mes êtres chers. Jusqu'alors, je me suis donné un mal de chien, du marché à la table dressée, et ça n'a jamais empêché les disputes, les allusions perfides, voire la serviette jetée et le convive qui tend la pièce. Alors, dorénavant, ils auront des barquettes toutes préparées, un excellent motif de mauvaise humeur.
Et ils y vont du feu.
Voilà, ils s'en foutront comme ils font d'habitude.
Mais ils viennent pour vous, ils viennent pas pour la nourriture, voyons.
Peut-être, oui.
Serge Joncourt, alors vous bâclez pas?
J'ai bâclé le vissage de ma route secours entre Pithiviers et Nogent.
Ah zut!
Un soir de verglas. Et je revois le dépanneur me dire du haut du ravin que ça se faisait pas.
Lucas?
J'essaye de ne pas bâcler la lecture des livres que l'on m'a offerts. Ah, tu verras, c'est magnifique. Oui, mais c'est vraiment pénible. Alors je me retiens de sauter les pages, non par respect pour l'auteur, mais pour ne pas vexer, même à son insu, l'ami délicat.
C'est bien. Vous êtes quelqu'un de bien, quand même.
Je suis toujours dans le même livre depuis 6 mois, hein, quand même.
Je ne vous demanderai pas de qui il est, Jacques Bertrand.
Alors moi, je pense qu'il convient de toujours nouer impeccablement ses lacets. Si on bâcle cette opération, on ne peut pas savoir quand ils vont se dénouer. Il se peut que quelqu'un marche sur votre lacet défait, vous fasse trébucher et passer sous un autobus.
Ah oui, absolument. Ah oui.
Or, quitte à passer sous un autobus, il vaut mieux pouvoir le faire l'esprit tranquille.
Il est là, c'est bien noué.
Je conseille des mocassins.
Ouais. Et pour vous, Dominique Muller?
De manière plus générale, d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu le soin de ce qu'on appelle des réseaux. Familial, amical, professionnel, cette sorte de tissu censé vous habiller pour la vie m'a toujours semblé superflu, prise dans l'intensité du moment, pas d'avant, pas d'après. Et maintenant, ben voilà, rien pour me tenir chaud.
Oh, oui, on est là.
Voilà. C'est nous, votre réseau, Dominique. Oui, regardez
plus,
Serge,
en plus,
comme il a.
Peu que j'ai mal lassé mes chaussures, alors là, vraiment.
Appuyez-vous sur l'épaule de Serge, il a les épaules larges, Serge. C'est un homme de réseau, d'ailleurs, je crois. Mm-hmm. Serge.
J'ai bâclé ma plus belle histoire d'amour.
Oh non.
Parce que j'avais trop peur que ça m'empêche d'en vivre d'autres.
Et alors
que s'est-il passé?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Par la suite.
Rien de plus. J'ai beaucoup livré.
Mais les autres, vous les avez beaucoup travaillé.
C'était la question. Et ensuite, est-ce que ça valait la peine de bâcler la première?
À coup sûr.
Oui, il est désespéré ou désespérant, je ne sais pas. Violaine.
Moi j'ai bâclé le brossage de mon chat. Vite, trois coups de peigne, histoire d'eux, avant le coup de griffe. C'est toujours mieux pris.
Et vous, Lucas Fournier?
Moi, je ne bâcle pas les cartes de vœux, car je hais les vœux bâclés. Vous savez, ces cartes de vœux, toutes imprimées en 12 langues pour une ONG, où votre souhaiteur de bonheur appose simplement sa signature. Eh bien, à lui, je réponds à la main et longuement pour tacler sa bâclitude.
C'est mignon, ça, la bâclitude. Jacques Bertrand.
Je n'aime pas du tout bâcler mon réveil. Sauter précipitamment du lit, par exemple. Ouvrir les deux yeux en même temps.
Dominique,
je ne sais pas pourquoi je bâcle la lecture des modes d'emploi. Sans doute parce que je ne comprends pas les deux tiers des phrases, mal traduites ou usant d'un vocabulaire technique dont j'ignore tout. Et ça doit être aussi pourquoi il y a tant d'appareils en panne.
Qui ne marchent pas.
Même chose, Lucas.
C'est la même chose. J'y ajouterai les posologies de médicaments et d'antibiotiques, les plats cuisinés, les meubles à monter soi-même, etc. Et effectivement, les faits qui sont têtus nous donnent toujours tort.
Violaine.
Moi, le nettoyage de la cabine de la voiture où traînent des papiers de chewing-gum de l'été dernier, hop, sous les fauteuils, ni vu ni connu.
Ah, c'est pas une femme d'intérieur, Violaine Schwartz. Lucas, qu'est-ce que vous bâclez ou pas?
Je bâclerai volontiers, mais le puis-je, la cérémonie des au revoir dans les dîners ou réunions de famille. Mais tu n'as pas dit au revoir à tante Simone, mais tu es parti sans embrasser l'oncle Paul. Ben non, pas le temps, pas envie.
Ouais.
Ben dis donc, il vous invite toujours.
Jacques Bertrand.
Je n'arrive jamais à me décider lorsque je passe l'aspirateur à soulever le tapis.
Ça, c'est un peu dommage quand même. Oui.
Je fais pareil.
Mais au moins, vous avez.
Il n'y a rien en dessous, en fait.
Bah non,
c'est propre.
Il y a le tapis dessus.
Bah oui. Dominique Muller.
Aux écureuils, à l'encens Vercors.
Oui.
Il fallait tout bien faire, du matin au soir. Son lit, sa toilette, son petit déjeuner, comme ça jusqu'au soir. Plein de fillettes ensemble dans les dortoirs, le réfectoire, la cour. J'ai toujours tout bâclé, absolument tout, pour me procurer quelques instants de solitude à lire dans les cabinets.
Ah oui, c'est un bon endroit, les cabinets, pour lire quand on est petit.
C'était le seul endroit où vous étiez tranquille.
Ah oui. Serge.
Un jour, j'ai bâclé la rédaction d'un long roman en me disant, tiens, ça fera une longue nouvelle. Ouais. À chaque fois, j'ai dû le dire.
C'était quoi le titre déjà?
Lucas.
Je bâcle les compliments. Une fois que j'ai dit merci, c'était formidable, ou merci, c'était bien, je trouve que l'essentiel est dit. Autant je suis inspiré ici pour m'étaler, autant il m'est difficile d'en faire des tonnes quand on dit simplement « je trouve ça formidable, ça suffit ».
C'est déjà énorme.
Oui, merci pour tout, Lucas. Bon, en fait, assez souvent, je me dis que j'aimerais bien savoir bâcler.
Oui. Vous êtes un perfectionniste, ne surfez pas.
Appelez-moi.
Dominique Muller.
Moi, j'aurais adoré bâcler mes devoirs à l'école, au lycée, mais j'ai jamais osé. Je suis comme Jacques, poussée par une espèce de force supérieure immanente à m'appliquer. Ce n'est qu'à l'université que j'ai commencé à bidouiller mes dissertations, mes versions. Alors j'ai compris que pour bâcler, il fallait une force encore plus supérieure que le sens du devoir, et cette force s'appelait les garçons.
Ah, grosse motivation.
Ah, oui.
Pareil, Lucas, vous me faites signe là.
Presque, oui. Il m'est arrivé, et il m'arrive encore, de bâcler la révision du contrôle de latin, de maths ou d'histoire, qu'un enfant trop zélé, parce qu'ils sont tous comme ça, ils ne sont pas comme Dominique, exige que je lui fasse faire.
Oui.
Précisément au moment où, du coup d'envoi de France-Irlande, par exemple. Alors, tu connais la date de la prise de la Bastille? Ben, bien sûr, papa. Alors c'est bon. Non, je veux que tu m'interroges sur la Convention et sur Robespierre. Bon, tu sais comment est mort Robespierre? Oui, papa, guillotiné. C'est parfait, c'est très bien. Et France Irlande, le résultat, c'est quoi?
Un peu bâclé aussi. J'ai bâclé le chèque de loyer à mon bailleur en oubliant 1-0. Et du coup, je n'ai payé que 10%.
Moi, j'ai bâclé un petit peu le remplacement du troisième bouton sur le devant de mon manteau que j'avais gardé précieusement au fond de mon sac pendant 3 semaines. Allez, aujourd'hui, je m'y mets. Le fil est un peu trop clair, si on y regarde de près, mais au moins, c'est fait, on n'y pense plus.
Alors, ce que je fais, c'est que j'emprunte à une amie, généralement, du vernis à ongles transparent.
Ah bon? Et ça marche?
Ça marche.
Ah bon? Ça m'intéresse beaucoup.
C'est-à-dire comment ça?
Oui, coller donc je colle le fil avant qu'il se, qu'il se défile.
Ah, le fil. Ah,
et
oui,
avec de la colle, tout simplement.
Pas mal.
Et c'est très astucieux, en tout cas.
Ah oui, ça, je m'en souviens.
Ouais, Dominique.
Dans le même esprit, je bâcle, mais je crois que tout le monde le fait, le tri du linge et de la vaisselle avant d'enfourner l'un et l'autre dans le lave-linge ou vaisselle. Je possède donc un tas de vêtements aux couleurs bizarres, que dis-je uniques, et des tessons de verre que je ne me résous pas à jeter. J'ai aussi des lames de couteau sans manche et vice-versa. Ça intéresse quelqu'un?
Moi, j'ai des manches sans lame.
Voilà, ça reste ce que je dis, oui.
Moi, je bâcle les pots de départ du bureau. Vous savez, ce pur moment de convivialité où l'on célèbre M. Pinault qui, après 38 ans de bons et loyaux services, nous fait le chagrin de nous quitter pour une retraite ô combien méritée, où il va pouvoir enfin s'adonner, M. Pinault, à sa passion, les puzzles représentant des tableaux célèbres. Et d'ailleurs, avant de boire le verre de l'amitié, je me permets, M. Pinault, de vous offrir au nom de tous le témoignage. Non, alors stop. Non, j'y vais parce qu'il faut y aller. Mais juste à la fin, quand c'est fini. Ah, c'était pas à 13h? Ah non, 12h? Ah!
Lâche, vous êtes un lâche. Jacques Bertrand, en dehors des lacets de chaussures, qu'est-ce que vous bâclez? Ou qu'est-ce que vous n'aimez pas bâcler plutôt?
Quand on a bâclé quelque chose, il est préférable de prétendre y avoir au contraire beaucoup travaillé.
Oui.
La plupart des gens vous croiront sur parole.
C'est vrai, c'est vrai. Les choses que vous bâclez, Serge.
J'ai bâclé le récitatif dans l'aria de la Passion selon saint Matthieu, et ça a complètement déboussolé l'orchestre. C'est probablement la seule occasion que j'aurai dans ma vie de prononcer cette phrase.
J'ai dit, on ne te croit pas.
Maria de Medeiros. Place à Patrick Beignet, Jacques Jouet, Lucas Fournier et Gérard Mordilla. Ils jouent aux gonfleurs de textes. D'ailleurs, c'est un jeu à suggérer à ceux qui rêvent d'écrire, qui se sentent la fibre romanesque, mais ne savent pas par quel bout attraper leurs idées. C'est simple. Vous piochez une phrase dans un roman, une nouvelle, et vous gonflez cette phrase de l'intérieur en vous faufilant entre les mots pour la nourrir d'informations nouvelles, tout en conservant le premier et le dernier mot. Naturellement, il faut aussi un brin d'imagination. J'ai confié une phrase à Patrick Beignet, il s'en est saisi et il se lance. On écoute la phrase, Patrick.
Il jouait sans interruption, ne s'arrêtant que lorsqu'il voulait boire de la vodka ou remonter son pantalon. Il était furieux.
Voilà, il y a un mot qui est un indice pour nous donner peut-être le lieu où ça se situe.
C'est pantalon,
oui. C'est pantalon, oui, c'est ça. Ben oui. Non, c'est vodka. Donc, c'est une histoire russe, écrite par qui, à votre avis, Gérard Mandia?
Par un russe.
Bravo.
Ce n'est pas Dostoïevski, ce n'est pas Gogol, disons que c'est Tchekhov.
Mais vous avez gagné. Mais il est très fort.
Moi, j'avais du Poutine, mais je pense pas.
Ah non, je lis assez peu les œuvres de Poutine. Donc, Anton Tchekhov, c'est une nouvelle qui a pour titre « Le journaliste ». Vous nous la relisez, cette phrase, Patrick?
Avec difficulté, parce qu'elle est très mal ponctuée, je trouve.
Ah, j'ai respecté la ponctuation du livre.
Il jouait sans interruption, ne s'arrêtant que lorsqu'il voulait boire de la vodka ou remonter son pantalon, il était furieux.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, dans cet embryon d'histoire, de gonfler de l'intérieur, de nourrir en information?
J'essaie de renforcer la logique de cette phrase qui me paraissait un peu défaillante.
D'accord. Ben ça, c'est très clair.
Donner quelque chose de plus fort.
Oui.
Les héros de Tchekhov sont souvent faibles.
C'est possible, oui.
Je lis ma version.
Oui, avec grand plaisir.
Il jouait sans interruption, ne s'arrêtait que lorsque Madame Louvret lui demandait s'il voulait boire de la vodka ou remonter sa montre. Comme il avait taché son pantalon, il était furieux.
Ah oui. Mais
psychologiquement, c'est quand même
très fort. Voilà. Ah oui, oui, il y a une situation, il y a cette femme qui a un nom bien français, oui. Hein, apparemment. Et donc, Jacques Jouet, vous relayez cette histoire.
Oui, je saute sur Madame Louvret, si je puis dire.
Oui. Ah ben, écoutez, en disant, oui,
c'est pas suffisamment russe avec un nom comme ça, donc oui. Je vais tâcher de russifier un peu cette histoire.
Ah, oui, quand même.
Mais je sentais pas du tout Tchekhov derrière.
Vous sentiez quoi? Rien.
Je voulais plutôt aller du côté d'un roman plus métaphysique que ça, que Tchekhov. Donc plutôt vers Dostoïevski.
Ah, hein.
Je ne sais pas si j'ai réussi, hein, c'est pas facile.
Donc vous avez doublé ce très court texte de Patrick Peignet.
J'ai un peu plus que doublé même, je pense.
Ouais.
Il jouait le 7, sans interruption. Et c'était sa vie tout entière qu'il lançait sur le tapis. 7, et son existence aurait enfin du sens. Depuis 8 heures, la boule tombait infailliblement sur le 8. Il ne s'arrêtait que lorsque Madame Louvray lui demandait de sa voix de petite sorcière désirable s'il voulait boire de la vodka ou de l'eau de Marienbad. Mais Piotr n'avait qu'une envie. Il voulait remonter sa montre à elle, dont il apercevait les aiguilles arrêtées. Il joua le 7 et saignait du nez. Comme il avait taché son pantalon à lui, il était furieux.
Il y a une vraie histoire, on est dans le joueur de Dostoïevski.
Ah oui,
ça c'est très très clair. On peut réécouter la phrase de début, Patrick Peignet?
Il jouait sans interruption, ne s'arrêtant que lorsqu'il voulait boire de la vodka ou remonter son pantalon, il était furieux.
Voilà, dans la phrase initiale, on avait l'impression qu'il jouait de la musique. Et avec, enfin moi j'ai lu la nouvelle, si vous voulez. Et avec Jacques Jouet, il joue à la roulette. Et vous, Lucas Fournier, vous recevez ce court texte très russe de Jacques Jouet, vous en faites quoi?
Et je le dérussifie, et,
ah bon,
et je passe de Brest-Litovsk à Brest, tout court. Je le bretonnise.
Oui.
Et ça marche très bien.
On va voir.
Il jouait le 7 à Quimperlé, puis toute la semaine sans interruption à Ploermel. Et seul en scène pendant 4 heures, nu, assis en tailleur, c'était sa vie tout entière qu'il lançait au public, assis lui aussi en tailleur sur le tapis. Le 7 à Quimperlé, et son existence aurait du sens enfin, ou au moins une signification. Depuis 8 heures, il attendait la correspondance en gare de Loudéac. Il neigeait. Pour tromper l'ennui, il lançait le plus loin qu'il pouvait des boules de neige. La boule tombait infailliblement sur le quai 8. Le TER passa sans s'arrêter. Il ne s'arrêtait que lorsque Madame Louvray, la chef de gare, lui demandait. « Je joue le 7 à Quimperlé !» hurla Piotr en entrant dans le bureau accueil SNCF. La préposée avait une voix de petite sorcière, désirable en d'autres circonstances, mais pas ce soir-là. Elle lui demanda s'il voulait boire de la vodka, du chouchen ou de l'eau de Marienbad.
On dit du chouchen.
Oui, enfin avec l'accent de Saint-Pétersbourg. Mais Piotr, car bien que breton, Piotr Le Kerverec se nommait Piotr, n'avait qu'une envie. Il voulait monter sur la scène du Bagnos Théâtre de Quimperlé le 7. Il regarda sa montre à elle, la préposée dont il apercevait les aiguilles arrêtées sur 8 heures. Le train pour Quimperlé, nom de Saint-Guénolé, hurla Piotr. Elle joua les effarouchés. Pas avant le 7, monsieur. Et encore non, le 7 est un dimanche. Il n'y a plus de train le dimanche. Elle éternua puis saigna du nez. Comme elle avait taché son pantalon à lui, son pantalon de Seine, il le retira et s'assit en tailleur nu dans la salle d'attente de la gare de Loudéac. Puis lentement, il commença son spectacle, seul, même si on n'était pas le 7 à Quimperlé, mais seulement le 6 à Loudéac. Il n'y avait plus personne, seulement un chat que la voix incantatoire de Piotr avait réveillé. Il était furieux.
Bah, on comprend qu'il soit furieux, le pauvre homme. Alors, évidemment, on est sorti de la Russie profonde, Jacques Jouy, vous êtes déçu.
Avec bonheur.
Avec bonheur, oui. Et vous qui aimez bien la Bretagne, Jean-Bernard, plus on est à l'aise.
Je suis en train,
dans cette histoire.
Je me demande s'il y a un train entre Loudéac et Quimperlé.
Ah, ça c'est une bonne
problème.
Question.
C'est peut-être pour ça
qu'il oui, c'est pour ça qu'il n'en trouve pas. Et les autocars, peut-être, mais...
Gérard Mordillat, quel est votre point de vue sur cette histoire donc, qui part de Tchekhov en passant par Patrick Beignet, Jacques Jouy et Lucas Fournier. Et c'est Lucas Fournier que vous avez lu.
Oui, mais moi, je pense qu'il y a justement de la Russie cachée sous la Bretagne.
Ah bon ?
Parce que j'ai reçu ce texte, en fait, comme, au fond, un texte d'un roman d'espionnage. Puisqu'on découvrira, bien sûr, que Piotr Le Guervarec est un pseudo. Et qu'il s'appelle en réalité Yves-Marie Dobrovski, et que c'est un espion du KGB.
Ah,
et en criant « Je joue le 7 à Quimperlé », qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la phrase code qui mobilise sur l'instant la chef de gare, qu'on appelle généralement Petit Bignou, Madame Louvray, alias Irina Sternovitch, qui, en tâchant le pantalon de Piotr, lui indique le plan de l'usine de Bombarde, où il devra se saisir du prototype B787 avant de le transmettre à Moscou. Voilà, il y a tout ça. Il y a la Russie, il y a la Bretagne, il y a le mystère, il y a l'espionnage et les masques. C'est ça qui est magnifique.
Au moins,
il ne bombarde pas l'usine de Bombarde, déjà. C'est
voilà.
Vous voyez, Patrick Beignet, quand vous avez reçu cette phrase, vous l'avez trouvée un peu légère et vous avez voulu la densifier. Alors là, vous êtes satisfait. Alors,
au-delà de tout espoir.
Oui. Vous êtes d'accord, Lucas Fournier?
Oui, je pense que le roman est un peu daté, quand même.
Oui.
Un petit peu, n'est-ce pas?
Man nennt mich Miss Vane, die berühmte, bekannte, yes sir!
Yes sir!
Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante, no sir!
No sir!
Man fürchtet, ich könnte die behüteten Neffen im Himmelbett oder im Spielsalon treffen, ich könnte sie verführen mit tausenden Listen zu etwas, das sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, sir!
Yes, sir!
Yes, sir!
Yes, sir!
So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleibe ich. Yes, sir! Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden, yes, sir? Sollt ihr euch nicht gleichgültig von mir wenden, no, sir?
No, sir!
Ich habe geliebt und ich habe geküsst, weil... die Liebe doch dazu erfunden ist, wie's alle auch hier tun, seit tausenden Jahren nur. Darf man um Gottes Willen nichts erfahren? No, sir!
No, sir!
Yes, sir!
Yes, sir!
C'est Nina Hagen qui chantait. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. À suivre jusqu'à 13h59, une histoire de SMS. Le DLA ou diagnostic littéraire à l'aveugle, choix du texte piégeux par Jacques Vallée. Et un joli dimanche façon Tardieu par Jacques Abertrand. Une nouvelle histoire tout en SMS donc par Dominique Muller. Son interlocuteur lui répond peut-être, peut-être pas. En tout cas, elle monologue par écrit et toute sa vie privée défile. Comment vous appelez-vous pour cette histoire, Dominique ?
Je suis Lucille. L'histoire pourrait s'intituler « Bonnes et heureuses années » car chaque SMS est écrit le 1er janvier au matin pour faire des vœux, n'est-ce pas ?
Alors on écoute.
Et Lucille est chez elle, tout simplement, n'est-ce pas ? Bonne année mon Michou, avec le triple vœu que rien ne changera entre nous, que tu voudras bien être le témoin d'Alex et vite son ami, et surtout que toi aussi tu trouveras une âme sœur aimante qui domptera le chien fou que tu es. Excuse l'image, mais tu vois ce que je veux dire, elle. 1er janvier, l'année suivante. Alex se joint à moi pour te souhaiter la meilleure des années et te demander d'être le parrain du bébé. De mon côté, j'espère que tu lui transmettras ta fantaisie pour que j'aie un mini Michel avec moi et que tu seras plus indulgent avec les prétendantes qu'Alex ne désespère pas de continuer à te présenter. 1er janvier, l'année suivante. Notre petite Alice se joint à moi pour te souhaiter une merveilleuse année et prier son tonton Mimi de noter dès ce jour son mois d'août avec nous à la boule. Alex sera retenu par son chantier à Doha. N'est-ce pas déjà l'assurance d'un été fantastique ? Ambiance nostalgie entre vieux potes, jeunette dans tes bagages, pas vraiment de mise, mais tu décides. Toujours signé elle, n'est-ce pas ?
Ouais, le temps passe, une année encore.
Le temps passe. Donc, une année plus tard, 1er janvier, fantastique année à toi, Michel. Je suis sûre qu'elle le sera, que tu ne regretteras plus notre bêtise de l'été. Après la naissance, encore 4 mois d'attente. Alex aime déjà cet enfant et tu feras de même sans avoir les responsabilités d'un père plus libre que jamais. Oui, Michel, fantastique année, tout ira pour le mieux, je suis impatiente. Elle. L'année suivante.
Il se voit quand même entre deux SMS.
En fait, il se voit
SMS.
Sans cesse sous voilà. Bons amis,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Oui.
Une année de bonheur, Michel. J'en rêve pour nous, Alice et Thomas. Alex a compris, en te voyant avec le bébé le soir de Noël, le fait est que les boucles rousses, sous le même bonnet de Père Noël, c'était frappant, en plus de ce qu'Alex appelle vos « gloussements idiots ». Semaine pénible donc, doux réveillon nouvel an annulé, dîner maintenu le 6, Alex espère ta présence, moi aussi, elle. L'année suivante, 1er janvier toujours, les traditions ont du bon, n'est-ce pas ? Bonne et heureuse année, Alex. Michel se joint à moi pour te souhaiter de refaire ta vie, d'aller de l'avant en oubliant les tensions. Tu manques aux petits, à moi aussi. La vie de bohème, ça nous change. J'espère que tu te souviens des beaux jours et qu'on se verra bientôt en amis, tous réunis comme avant. Car sans toi, rien n'est pareil. Elle.
À la boule, toujours.
Ah ben, c'est assez ouvert, n'est-ce pas ?
Ouais, elle a mis du temps à se décider, quand même.
Il y a eu ce regrettable accident de l'été, quand même.
Le DLA, avec un maître du jeu, Jacques Vallée, et 4 experts littéraires et cultivés, Eva Almassy, Patrice Minet, Lucas Fournier, Patrice Delbourg. Jacques Vallée a donc prélevé une 20aine de lignes dans un roman, un essai, une nouvelle, on ne sait pas, mais c'est de la littérature. Et il va nous les soumettre, ces lignes, comme un œnologue propose un vin à des amateurs pour dégustation. Comme eux, nos experts devront dire quelle en est la provenance, française, étrangère, et si c'est le cas, de quelle langue elle se traduit, et puis déterminer l'âge de l'écrit en jeu, avancer tous les arguments qui leur permettront de dire qui en est l'auteur. On joue avec des auteurs très connus. Alors oui, je sais, la dernière fois, nous avons joué avec un bout du journal des Goncourt, pas si connu de tous pour leur style, mais pour leur nom. Là, oui, ils portent un nom qui fait rêver de gloire tous les écrivains. Jacques Vallée, vous avez le petit air narquois de celui qui est content de son piège. On vous écoute, Jacques.
Si vous avez quelques soucis de votre bonheur futur, quelques desseins de vivre confortablement avec un mari, quelque espoir de préserver votre fortune ou de la rétablir après une catastrophe. Mesdames, n'épousez jamais un sot. N'importe quel mari plutôt qu'un sot. Avec d'autres maris, vous pouvez être malheureuse, mais avec un sot, vous serez misérable. Avec un autre mari, vous pouvez, ai-je dit, être malheureuse, mais avec un sot, vous êtes sûre de l'être. Même s'il le voulait, il ne pourrait vous satisfaire. Tout ce qu'il fait est si gauche, tout ce qu'il dit est si vide, qu'une femme d'un peu de bon sens ne peut manquer d'être exaspérée et dégoûtée de lui 20 fois par jour. Quoi de plus pénible pour une femme que d'emmener avec elle dans le monde un mari beau et élégant, et ensuite d'être obligée de rougir de lui chaque fois qu'elle l'entend parler, d'entendre les autres messieurs parler avec intelligence alors que lui n'est capable de rien dire et a l'air d'un sot, ou bien, ce qui est pis, de l'entendre dire des sottises et être un objet de risée comme un sot. Ensuite, il y a tant d'espèces de sots. Leur variété est tellement illimitée et il est si difficile de discerner la pire que je suis obligé de dire pas de sot du tout.
Bon, il est délicieux ce texte, c'est pas très gentil pour les hommes. Non, vous n'avez pas l'air de trouver ce texte délicieux du tout. Eva Massi, vous le trouvez comment ?
Moi, je trouve tout un sans intérêt aujourd'hui, peut-être au XVIIIe siècle.
Ça dépend de l'époque d'écriture.
Il n'y a plus de sot aujourd'hui ?
Oui, mais c'est...
Mais aujourd'hui, on ne dirait pas sot, on dirait con.
Oui, mais c'est
extrêmement... Con et beau à la fois, ou beau et con à la fois, c'est ça.
Pour moi, c'est un texte qui date énormément. Donc, on lit ça aujourd'hui pour l'ensemble, mais pas pour ce passage, sûrement pas.
Oui, et alors, il date de quand ?
Le 18e siècle.
Ah, si
moi,
vieux que ça, oui.
Oui, parce qu'on amène un mari dans le monde. Enfin, le monde comptait énormément. Enfin, 18e siècle, je dirais. Mm-hmm.
Lucas Fournier. Première impression, comme ça.
Première impression, c'est que c'est un texte universel. C'est-à-dire qu'il pourrait être écrit dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue. Et presque à toutes les époques, entre le XVIIe et le XXe siècle.
Malgré ce qu'en dit Eva, oui.
Oui, ou non, mais...
C'est à cause du mot sot.
Eva a probablement raison en notant le fait qu'on puisse amener son mari dans le monde. Mais... Tout ça, on pourrait l'entendre sous toutes les latitudes et sous les tropiques. Donc ça rend assez difficile la première appréciation comme ça. Même si l'écriture est très maniérée, un peu datée entre guillemets. Mais voilà. Donc il n'y a pas d'aspérité.
Non, il est lisse ce texte.
Oui. Sauf la chute, pas de saut du tout là, qui sonne curieusement d'ailleurs. Et donc c'est un texte qui peut avoir été écrit dans n'importe quelle langue. C'est surtout
d'accord,
ça que je voulais vous dire.
Patrice Minet, vous avez l'œil qui frise. Je sens que vous êtes malin, vous avez trouvé.
Je trouve que c'est un texte qui s'adresse à une catégorie sociale.
Oui.
Ça ne s'adresse pas aux paysans, ça ne s'adresse pas aux ouvriers. Et ça s'adresse donc à une classe qui peut être bourgeoise, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, ou même la noblesse. Ça traverse les siècles. Mmh. Hein, on peut dire que ce discours, on peut le tenir dès que les femmes épousent les hommes. Mais c'est un texte où les femmes peuvent choisir d'épouser les hommes. Elles peuvent choisir leur mari.
Oui, on ne leur impose pas.
Voilà, ça exclut déjà une grande partie de notre passé.
Et notamment le 17e, me semble-t-il. Non, Eva ?
J'aimerais souligner quelque chose à la dernière ligne. On dit « je suis obligée, eux, de dire ». Donc, ce serait une femme qui donne ce conseil à ses consoeurs. Et donc, ça pourrait être dans une correspondance, ça pourrait être aussi une scène dans un livre où d'accord, c'est un personnage qui parle.
D'accord. Patrice Delbourg, on ne vous a pas entendu encore sur ce texte.
Oui, bien sûr, ça pourrait être la Sévigné dans une correspondance. Mais moi, je pense que c'est un texte... plus récent, d'un moraliste, d'un ironiste peut-être du fin 19e, début 20e, parce que la chute, quand même, pas de saut du tout, ne ressemble pas du tout au texte du 17e, 18e. Et puis il y a quelque chose, cette manière de traîner le saut en longueur, si j'ose dire, est assez charmante. Il y a un style assez enrobé, assez patenote, comme ça, qui est assez agréable. Alors, l'homme fait croire que c'est une femme qui s'exprime. Mais je pense que derrière se cache quand même un chasseur qui se frise la moustache.
Qu'est-ce que vous pensez, Minet, vous, femme ou homme ?
Dans le texte, simplement parce que les personnes, les gens qui nous écoutent n'ont pas le texte sous les yeux,
non.
La dernière phrase, que je suis obligé de dire, obligé,
et eux. Oui. Ah ben c'est ce que je viens de souligner.
Oui. Mais ça peut être... C'est ce qui va arriver, ah oui. De remarquer.
Oui, oui.
Hein. Non, mais c'est bien que vous soyez d'accord.
C'est bien d'être avec nous, Patrice Minet. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un personnage qui parle.
Ça peut être un des personnages d'un roman qui raconte ça.
Oui.
La méchanceté est très légère vis-à-vis des sots. Hein. On ne peut pas dire que ça soit très chargé. C'est pas non plus une caricature. C'est juste, ça a un peu le ton de la conversation, en fait.
Mm-hmm.
Quand j'entends ça, j'entends Sacha Guitry en train de...
N'écoutez pas, mesdames.
Voilà. En train de raconter...
Il fait très bien Sacha Guitry. Comment il lirait ça, Sacha Guitry, Lucas?
Il y a tant d'espèces de sots, leur variété est tellement illimitée, il est si difficile de discerner la pire que je suis obligé, eux, de dire pas de sots du tout.
Voilà. Ça prend une autre saveur, comme ça, évidemment.
Mais surtout, il y a le « ai-je dit », parce qu'au milieu du texte, avec un autre mari, vous pouvez, virgule, ai-je dit, virgule. Donc c'est bien quelqu'un qui n'écrit pas, parce que sinon il aurait écrit « ai-je écrit », enfin je pense.
Ça appartiendrait au théâtre ?
Pourquoi pas
D'accord, pourquoi Patrice Delbourg.
Oui. Ou à une conférence.
Oui. Avec d'autres maris, vous pouvez être malheureuse. Non. On sent venir quelque
chose. Faisons un rêve.
Oui. Mais je ne pense pas que ce soit un texte ancien.
Ah,
moi non plus.
Non.
Non, mais peut-être moi non plus.
Qu'est-ce qu'on entend par ancien pour moi, années 50, c'est déjà un peu ancien.
C'est pas Florian, c'est pas Madame de Sévigné, c'est pas Saint-Simon.
Non, c'est ancien.
Pas Éric Emmanuel Schmitt.
Je pense qu'on disait plutôt.
On parle d'écrivain.
Benet à l'époque de Madame de Sévigné.
Rousseau.
Nicodème.
Nigo.
Non, c'est la comtesse de Ségur, les deux.
Les deux Nigo,
oui.
Oui, maintenant, on dirait n'épouse pas un abruti. Quoi.
Un crétin, un abruti.
Un Benzema.
Un bêtard.
Voilà. Alors, comment dirait-on sot dans d'autres langues aussi? Ça, c'est la question.
Naughty.
Parce que...
Naughty boy. D'ailleurs, j'ai pensé mais négativement à Jane Austen, la grande spécialiste du mariage. Donc, c'est bien de nous le dire en anglais. Mais ça pourrait être un texte
écrit en anglais et traduit.
Mais non, vous êtes tous contre la traduction.
Non, au contraire. C'était le postulat de départ, d'ailleurs.
On ne sait pas.
C'est la date qui...
Ouais. Relisez-nous ça, avec un petit brin de sourire dans la voix, dans la barbe, Jacques Vallée.
Si vous avez quelques soucis de votre bonheur futur...
C'est une publicité pour une agence matrimoniale.
Quelques desseins de vivre confortablement avec un mari, quelque espoir de préserver votre fortune ou de la rétablir après une catastrophe, mesdames, n'épousez jamais un sot.
C'est mythique.
N'importe quel mari plutôt qu'un sot. Avec d'autres maris, vous pouvez être malheureuse. Avec un sot, vous serez misérable. Avec un autre mari... Vous pouvez, ai-je dit, être malheureuse, mais avec un sot, vous êtes sûre de l'être. Même s'il le voulait, il ne pourrait vous satisfaire. Tout ce qu'il fait est si gauche. Tout ce qu'il dit est si vide qu'une femme, d'un peu de bon sens, ne peut manquer d'être exaspérée, dégoûtée de lui 20 fois par jour. Quoi de plus pénible pour une femme que d'emmener avec elle dans le monde un mari beau et élégant, et ensuite d'être obligée de rougir de lui chaque fois qu'elle l'entend parler. D'entendre les autres messieurs parler avec intelligence, alors que lui n'est capable de rien dire et a l'air d'un sot, ou bien, ce qui est pis, de l'entendre dire des sottises et être un objet de risée comme un sot. Ensuite, il y a tant d'espèces de sots. Leur variété est tellement illimitée et il est si difficile de discerner la pire que je suis obligé de dire pas de sot du tout.
Oui, ça c'est étrange, effectivement, pas de sot du tout, c'est-à-dire vous retrouver toute seule et n'avoir même pas un sot avec vous, c'est ça l'idée, Patrice ?
Eh oui, c'est le garde des sots à la fin.
C'est-à-dire qu'en français, c'est pas très joli ce pas de sot du tout.
Voilà.
Mmh. D'où l'hypothèse que ce serait une traduction, parce que peut-être que dans une autre langue, ça sonne de façon plus clinquante.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le texte ça sent le roman, ça sent l'exercice de style sur les mots, peut-être.
Ça sent des chroniques pédagogiques, amusantes, anglo-saxonnes. Mmh. Ça sent quand même un peu la plume anglo-saxonne.
Oui.
Dans des conseils comme ça à des jeunes épouses.
ouais. donné par un auteur des années 20-30, anglo-saxon ouais. ou américain. C'est ce que je ressens comme ça.
Oui, vous non, pour moi, c'est vraiment plus vieux. Alors, c'est d'aucune façon du XXe siècle. C'est le bon sens. On ne se réclame plus du tout du bon sens. Et puis, on n'écoute pas les messieurs parler. Ça fait très salon et mondanité. Donc, s'il faut avancer dans le temps, je ne vais pas plus loin que le XIXe siècle, mais le XVIIIe me plaît davantage.
Il y a une chose qui est quand même assez adaptée, c'est vous pouvez être malheureuse, mais avec un sou, vous serez misérable. Est-ce oui. qu'on dirait ça encore aujourd'hui?
Mais il y a de la parodie dans la littérature, là, ouais. ça peut être. Il y a aussi ce qui est pis, par ouais. exemple. Là, ouais. c'est quand même quelque chose qui
et puis, être objet de risée.
Mais tout littérateur peut faire de la parodie d'un siècle précédent.
Alors, si on résume un peu la situation, tout le monde est d'accord sur l'hypothèse d'une traduction anglo-saxonne
non. Oui, ou d'autres langues, parce que ça peut être aussi dans non. une pièce d'un auteur russe, par exemple, oui. pourquoi pas.
Un russe.
Oui. On imagine assez une vieille tante donnant des conseils à des jeunes filles. Mais je ne sais pas si à l'époque, les jeunes filles étaient en situation de choisir le
saut. Et puis on les appelle mesdames, déjà les jeunes filles, ça c'est daté aussi. Mesdames n'épousaient jamais un saut. Donc
elles sont déjà mariées, c'est ça que vous voulez dire.
Non,
quoi.
Non, mais autrefois on pouvait, enfin mesdames, on pouvait oui, s'adresser
même
comme
les
ça.
Filles,
aujourd'hui, oui. on fait plus ça. Donc, mais moi, c'est donc les siècles, un petit peu anciens, et puis tout au plus trois langues, français, anglais ou espagnol.
Ah oui, quand même, oui.
Français, anglais, espagnol. Donc, ni russe, ni allemand, ni albanais, quoi.
Non, parce que vous parlez de l'hypothèse russe. Oui.
Russe aussi.
Il y a beaucoup d'histoires
vous.
De mari, de mariage dans la littérature
même
russe.
L'éternel mari.
Alors voilà.
Mais c'est pas ça.
Il y a de jeunes filles qui cherchent à se marier.
Il y a côté salon, hein. C'est-à-dire, quelque espoir de préserver votre fortune ou de la rétablir après une catastrophe, mesdames. Ça veut dire que la catastrophe, c'est que mesdames ont perdu leur fortune.
Oui, hein? Oui, oui.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas mesdemoiselles.
Ah.
Voilà, je pense. Hein.
Oui.
Et il y a un côté salon, c'est-à-dire qu'on voit une dame d'un certain âge en train de pérorer et en train de dire mesdames. Alors, on rigole, hein, on se moque des abrutis qui entourent toutes ces dames.
Ouais.
Et en fait, ça veut dire aussi, nous, on n'a pas été très gâtés, mais ça aurait pu être pire. C'est-à-dire qu'on aurait pu épouser des gens encore plus lamentables que ceux avec lesquels on vit.
C'est quelque part réjouissant.
Mais peut-être que celle qui parle a épousé un sot ou est la veuve d'un sot.
On n'est expert que dans ses propres défauts. Veut,
voilà, donc elle parle par expérience.
Et il y a un côté Molière aussi. C'est pas du Molière, mais il y a un côté Molière. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que c'est que la vie et vous allez voir, vous allez en prendre plein la gueule parce que la vie, c'est lamentable hein, et on rigole bien. Vous voyez, il y a un côté monologue, en fait.
Mais il y a un côté Victor Hugo, je ne dis pas ça à cause des Misérables, mais justement, dans Les Misérables, au début, il y a une discussion dans un café, et un des jeunes garçons qui est là explique « Mesdames, ne mangez pas de sucre ». Et il fait toute une théorie sur les dangers du sucre. Voilà.
Oui, oui.
Et ça aurait pu être tiré de... Donc ça veut dire que ce texte peut venir
Hugo,
de n'importe
Hugo
où.
Hugo a tout écrit. De toute façon,
oui, Hugo a tout écrit.
Mais alors, il y a aussi, oui, le discours sur les méfaits du tabac, auquel cas ce serait plutôt russe.
Mais ça là, c'est sur les méfaits des sceaux.
Là, c'est les méfaits des sceaux.
Oui.
Si on donnait des noms, est-ce que quelqu'un a des idées? Une idée? Ça a l'air tellement difficile.
Allez, moi,
vous avez le droit d'avoir deux idées,
j'ai
éventuellement.
La même que toi.
Ah non, pas du tout, parce que je viens d'en avoir une qui est complètement délirante.
Allez-y, Patrice Delbourg.
Et je me cacherai quand je saurai le véritable nom, mais ouais, je vois un humoriste du 20e, américain, anglo-saxon. Tant pis, je me lance. Groucho Marx.
C'est pas sot.
Parce qu'on est entre Madame de Sévigné et Oscar Wilde.
C'était mon choix, Oscar Wilde. Donc je le donne, puisqu'on est là. Voilà, je l'ai marqué.
Mais il
fallait
plus loin encore avec Groucho Marx.
Ah, c'est très une bien. Très bonne idée.
D'accord. Bon. Alors un Groucho Marx pour Patrice Delbourg, un Oscar Wilde, pour Lucas Fournier, Patrice Minet.
Moi, je dirais Edith Wharton.
Ah oui, c'est quelqu'un que vous aimez bien citer.
Oui, je suis dans la raison.
Ça, c'est raisonnable.
Donc, auteur américaine, je crois.
Oui, et oui.
Bon, personne n'a proposé encore Françoise Dolto, j'attends.
Non, mais alors Eva, votre écrivaine ou écrivain du 18e, ce serait qui?
Moi, je vais dire Jane Austen, même si c'est... j'ai dit que non.
Oui, c'est un peu gênant quand même.
Oui, mais parce que le... Sinon, j'ai noté des noms, bien sûr, Madame Sévigné, Madame de Lafayette, mais je pense pas que ce soit ça, parce que c'est pas assez spirituel. Et Jane Austen, ce serait un personnage, hein, elle qui a tout l'esprit du monde.
C'est traduit comme ça, non. Jane Austen? Non, hein, c'est bien
non, ce qu'il semblait. Un personnage peut parler comme ça.
D'accord. Alors,
c'est pas un défaut, hein.
Nous avons Jacques Vallée, un Groucho Marx pour Patrice Delbourg, un Oscar Wilde pour Lucas Fournier, une Edith Wharton pour Patrice Mienet et une Jane Austen pour Eva Almassy.
Mais tout était très juste.
Mais oui, mais
tout était très juste, tout était possible.
Le jeu, c'est qu'on dit des choses très intelligentes et on se trompe quand même souvent.
Mais on passe pour un sot.
Et je vais proposer trois noms. Il n'y en a aucun des noms de avancés qui est dedans. Ni
dommage pour Groucho Marx, quand même.
Oui, c'est un peu dommage. Je propose George Sand, Daniel Defoe ou Jonathan Swift.
Ah, évidemment.
Je vais prendre Daniel Defoe.
Oui, pourquoi? Un petit argument, Eva?
Pour un de ces romans dont le titre ne me revient pas. Je sais pas, j'ai brûlé ça parce que ça colle avec l'époque. Et voilà, c'est parce qu'il faut bien avancer.
Oui. Bon, Daniel Defoe, sans grande conviction pour Eva Almassy. Alors, nous avons George Sand, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Lucas Fournier.
Non, puisqu'on est toujours dans l'hypothèse de la traduction, c'est un auteur anglo-saxon. George Sand, ça paraît être un piège quand même assez énorme. Mais...
Méfions-nous quand même. Hein.
Et je pense que Jacques a un goût particulier pour Swift. Mm. Et qu'il est probable que c'est lui qui l'a choisi.
Bon, un Swift, Patrice Delbourg, Swift
quelques
aussi.
Quelques modestes conseils de Swift à des jeunes femmes... Il a donné beaucoup de petits conseils un peu comme ça, frileux à ses contemporains, Swift. Il aurait pu donner celui-là.
Oui,
puis ça vient bien au teint de Jacques Swift.
Et pour vous, Patrice Mienet?
Il y a un côté, moraliste chez Swift. Personne ne prend George Sand?
Non.
Et c'est dommage.
Tu ne veux pas la laisser seule ce soir?
Et alors?
Et pour qui est... forcément un gagnant, je vais prendre George Sand.
C'est très bien.
Quel opportuniste.
Non, t'es un bon joueur.
Je parle en dernier, t'es un bon joueur.
Alors, Daniel Defoe pour Eva Almassy, Jonathan Swift pour Patrice Delbourg, Lucas Fournier, George Sand pour Mienet, tout est balisé.
Et c'est Eva qui a gagné, qui a deviné dès le départ, c'est Daniel Defoe. Et c'est justement dans un roman, parce qu'on connaît de Daniel Defoe que le Robinson Crusoe, mais c'est un écrivain prolifique. Il a publié plus de 400 ouvrages.
Ah oui,
était contre les romans, et c'est simplement à la fin de sa vie, à 60 ans, qu'il s'est mis à écrire des romans, et le premier était Robinson Crusoe, et il en a écrit 8. Des très beaux romans, c'est dommage que Robinson Crusoe ait complètement éclipsé les autres, parce que c'est des très belles œuvres, dont Moll Flanders, Colonel Jack, le journal de l'année de la peste, ça, qui est magnifique, et puis celui-là, c'est tiré de Lady Roxana.
Et Lady comme une lady.
Oui, Lady.
comme il l'a dit, lui.
Lady Roxana. Et c'est un roman palpitant, audacieux, c'est un grand roman féministe, les aventures d'une courtisane de haut vol, ça fait penser un peu à la Juliette de Sade, qui veille farouchement sur son indépendance et se transforme en redoutable femme d'affaires. Très belle, grande amoureuse, elle garde la tête froide. Les hommes ne l'intéressent qu'en fonction du profit matériel qu'elle en tire, ou la satisfaction de sa vanité. L'amour, dit-elle, sujet ridicule à mes yeux, faute du principal, à savoir l'argent. Enfin, elle revendique une totale liberté, proclamant à contre-courant de son époque le droit des femmes à l'amour libre. Ses propos scandalisent. La femme mariée n'est au mieux qu'une domestique supérieure. La femme est capable d'administrer son patrimoine et d'en jouir sans l'homme. Si elle a envie de se passer des fantaisies sentimentales, elle peut entretenir un amant comme l'homme entretient des maîtresses. Et donc, c'est un texte incroyable de tomber là-dessus.
Ça a l'air magnifique. Mais c'est ça qu'il fallait prendre, le chapitre de l'amant, moi.
I'm gonna take my road, make my road. I'm gonna walk on by all night long. I'm looking for a home I'm gonna march till down, on and on. Walk, walk high, seasons go by. Walk, walk by, suddenly I walk, walk high, secrets in life. Walk, walk till the day I die.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Le joli dimanche, on n'aime pas le dimanche, on fait avec. Mais le dimanche ne laisse personne indifférent. Et pour nous, dimanche rime avec Papou et Papou avec vous. Un joli dimanche en pastiche proposé par Jacques Bertrand. C'est son premier joli dimanche à Jacques. Et il a un petit rôle pour Dominique Muller. C'est quel joli dimanche, Jacques Bertrand ?
C'est le joli dimanche de Jean Tardieu. C'est un dimanche tellement ordinaire que ce pourrait être aussi bien un autre jour de la semaine. Jean Tardieu déjeune, comme toujours, sauf quand il oublie, chez Madame sa mère. Jean Tardieu est d'une distraction qui confine au surréalisme et qu'il prend d'ailleurs soin de cultiver. Ce dimanche-là, il a l'air de mauvaise humeur. Je hais les jeudis.
Non, Jean, tu veux dire que tu es les dimanches, ce qui, par parenthèse, n'est pas très courtois pour ta mère.
Jeudi aussi. Il y a des dimanches qui sont comme des jeudis, ou pire, des mercredis. C'est grossier, les mercredis. Mercredi.
Ah.
Tiens, au fait, je t'ai apporté quelque chose. Je t'ai apporté des boutons, parce que les pleurs, c'est irritable. Puis les boutons, c'est tellement rond, bien que les pleurs soient plus candélabres. Surtout quand ils sont en chanson, je t'ai apporté des boutons.
Depuis que tu as commis cette pièce de théâtre, un mot pour un autre, il t'arrive de dire n'importe quoi, Jean.
À propos, j'ai invité le professeur Froppel. Il adore ton petit salé aux lentilles, le plat que tu fais tous les jeudis.
Tu veux dire le gigot au flageolet que je fais tous les dimanches? Je croyais que tu ne voulais pas manger autre chose.
Flûte.
Tu pourrais être poli.
Flûte. Le flageolet est une petite flûte. Il s'agit donc d'un gigot à la flûte.
Oh, j'espère qu'au moins tu n'as pas invité la môme néon. Celle qui a ferrin, qui a dirin, qui a pansarin, mais qui mange comme quatre.
Tu exagères, maman. C'est le jeudi qu'elle mange comme quatre. Comme les quatre jeudis. Mais le dimanche, à dimangerin.
Mais qu'as-tu donc, Jean? Tu as l'air tout drôle.
Cette conservation me fatigue énormément. J'ai un branle-bas de tête. Épelle-moi, quel pour sommes-nous?
Mandiche, Jean, mandiche. Ah, voilà que ça me branle assis. Ils ont l'air de bien s'amuser.
Ouais. Puis ils ont des rapports très mignons. Je trouve que la maman est très douce avec lui parce qu'il est quand même très agaçant.
Oui.
Et
oui,
pas du tout.
Elle rentre bien dans son jeu.
Ouais. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud. Une émission à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours sur notre page, où vous pouvez déposer vos remarques, questions et essais sur nos jeux papous, rubrique commentaires. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres aventures papouesques. Passez un très bel après-midi sur France Culture, bien au chaud, vigilant et à l'écoute.
Quoi, quoi ?